les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Alors, tu es médecin, devenu explorateur, puis écrivain. Tu incarnes aujourd'hui l'esprit d'aventure au service de notre connaissance de la planète. Jusqu'à travers tes expéditions audacieuses, tu nous interpelles sur l'urgence climatique et sur la préservation de nos écosystèmes. Tu inventes ta vie chaque jour, c'est ton expression. Tu as même fait un livre. Et ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu reviens d'ailleurs à peine de l'Antarctique encore, oui, là. Oui. Ton leitmotiv à toi, c'est la persévérance. Tu en as fait un autre livre. Tu as même fait un bateau.
Un bateau.
Merci donc de venir aujourd'hui dans Les Pionniers pour nous partager les coulisses de ton parcours inspirant. Je suis curieux, on est tous curieux de découvrir ce que tu penses quand tu fais tout cela. On va donc essayer de comprendre ce qui te motive, ce que tu ressens aussi. Et c'est aussi ça qui nous nourrit. Notre exploration sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra ici sur ce plateau. Et on commence tout de suite par une exploration de ton parcours. Alors, tu es né en 1946 dans le Tarn, dans un foyer modeste. Vous n'aviez pas d'électricité.
Si, l'électricité, mais pas l'eau courante.
Voilà, alors pas d'accès à l'eau. Oui, l'accès à l'eau se faisait au moyen d'une pompe.
Oui.
Dans la cuisine.
Dans la cuisine, oui.
Dès ton plus jeune âge, tu as aimé partir à l'aventure. Tu avais même imaginé, à 14 ans, partir tout seul. Tu avais fait tous les plans pour partir
dormir. Dans les Pyrénées en hiver.
Dans les Pyrénées en hiver, tout seul, déjà, à 14 ans. Est-ce que tu penses qu'on est explorateur ou on le devient?
Je pense que si on ne le naît pas, il faut le devenir. Parce que, en fait, l'exploration, c'est ouvert à tout le monde. C'est des fois abandonner ce que l'on a acquis pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles découvertes, pour un nouveau métier.
Alors ça, c'est l'exploration de toute vie. Après, explorateur extrême comme toi pour aller
dans le pôle Nord. Après, des explorateurs, il y en a beaucoup. Moi, j'étais au pôle Nord en solitaire, ça fait qu'on a parlé de moi. Mais il y en a beaucoup qui sont explorateurs, qui font des expéditions extraordinaires, qu'ils font souvent des fois en famille ou seul et dont on
Louis,
parle pas.
Gégé, ça te rappelle quelque chose, tous ces gens-là?
Gégé, bien sûr, Denis, tout ça sont des gens qui m'accompagnent et qui ont été très importants dans mes expéditions, dans la préparation du matériel et tout ça. Et donc, c'est moi qui suis à l'affiche, quoi.
Bon, et alors, tu étais aussi super campeur, tu m'as dit, avant de devenir explorateur.
Oui, moi, j'aimais vivre dehors, en fait. Tu l'as dit, je suis né à la campagne et J'aimais vivre dehors, je m'inventais des histoires, je m'inventais des expéditions. Parce que le Tarn, c'est vraiment la campagne, quoi. Les Pyrénées étaient assez lointaines. Et je m'inventais ça. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours habité de partir, sac à dos, d'aller dormir dehors quelque part. Je faisais ça quand j'étais jeune, oui.
Et nous allons refaire un petit peu ton parcours, une partie, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout résumer en deux minutes, Rebecca.
Et avant tout cela, vous n'aviez pas été pris en sixième au collège car vous n'aviez pas les notes suffisantes.
Oui.
Vous êtes parti faire des études professionnelles de tourneur-fraiseur.
Oui.
Ça vous allait puisque vous souhaitiez devenir menuisier, vous aimiez le bricolage. Et là, pour la première fois, vous avez des bonnes notes. Vous êtes même identifié par votre prof comme ayant du potentiel, puis êtes envoyé en seconde générale pour passer un bac technique. Vous vous inscrivez à la fac de médecine de l'Université de Toulouse. Et dès la deuxième année, vous vous intéressez à la chirurgie et pratiquez en tant qu'aide opératoire, puis assistez à des opérations à répétition. Vous devenez donc interne en chirurgie. Et vous obtenez finalement un diplôme de biologie et de médecine du sport. Puis vous vous engagerez ensuite sur toutes les expéditions que vous trouverez. La course autour du monde en 1977, le pôle Nord en solitaire en 86, l'Antarctique en 89, la banquise pour étudier le réchauffement climatique en 2002, l'île de Clipperton dans l'océan Pacifique en 2005, l'Antarctique également, la première traversée de l'océan Arctique en ballon en 2010 et j'en passe. Bref, pas facile de vous arrêter puisque vous ne cessez de persévérer. Titre que vous donnerez à votre livre et Persévérance, nom de votre bateau.
Génial. Génial, vous avez tout dit.
Oui, presque. Mais
je vais garnir entre les lignes.
Maintenant, il faut qu'on comprenne pourquoi. Alors, tu avais eu un vrai coup de foudre pour la chirurgie et une passion pour l'orthopédie.
La chirurgie, oui, parce qu'en fait, En fait, donc j'ai toujours été manuel, j'ai toujours bricolé. Je voulais jouer de la guitare, j'ai construit ma guitare. Donc j'ai toujours fait les choses. Et en deuxième année de médecine, j'ai demandé à un chef de clinique si je pouvais assister aux opérations, d'accord, pendant l'été donc. Et j'étais là tous les jours. Et au bout d'un mois, il y a une urgence de la main. L'interne n'était pas là et le chef de clinique demande à la chef du bloc, elle dit « habille Étienne ». Ça, c'est un grand moment de ma vie. Habille Étienne, donc en chirurgie, on se lave les mains, on est stérile et on t'habille. Et le chirurgien, il opère avec ses 10 doigts et il a besoin d'une aide opératoire pour tenir les pinces, pour éponger, etc. Et là, je retrouve en médecine le travail manuel, la chirurgie. Et je dis, mais je serai chirurgien avec une faiblesse, une passion plutôt pour l'orthopédie. Effectivement, l'orthopédie, je retrouve la mécanique. À l'orthopédie, on met des vis, des plaques, des broches, maintenant des prothèses. Et j'ai adoré ça, quoi.
Mais alors, tu pars quand même avec Éric Tabarly en 77 à bord de Pendix 6.
Oui.
C'est quand même pas la même vie. Est-ce que tu sais pourquoi tu as fait ce choix et comment ça s'est passé?
J'avais déjà fait quelques expéditions avant de partir avec Éric Tabarly. Je conservais un lien avec la médecine à travers des remplacements de médecins généralistes. Parce que la chirurgie, c'est quelque chose qui demande à être là en permanence. Et donc, j'ai maintenu ce lien. Donc, je faisais quand même de la médecine. J'ai fait des expéditions. Et donc, j'écris à Tabarly que je rencontre en rentrant de Patagonie. Lui, il était à Rio, il était dans une course au large, en escale de course, à une étape. Et à l'aéroport, je le rencontre. Et je vais le voir, il dit, écoutez, je suis médecin. D'abord, il s'inquiète, il me dit, vous êtes de la course, là? Je dis, non, je suis alpiniste. Ça l'a soulagé. Il n'avait pas à traiter mon cas, parce que tout le monde voulait embarquer avec Tabarly.
Oui, alpiniste, a priori, tu n'avais rien à faire sur un bateau.
Et non, mais j'étais médecin. Je suis médecin et je peux être utile, je suis sportif, etc. Et puis, il m'a demandé mon adresse et il m'a envoyé un message, un courrier, presque un an après. J'étais revenu à la fac. Et le matin, je me souviens, c'était en février, à la boîte aux lettres. Lettre de Tabarly. J'ouvre. Je tente de monter les escaliers. J'avais déjà décidé, je me vais me barrer. Je me souviens, je suis allé voir mon patron de la fac. Je lui ai dit, regardez ce que j'ai reçu. Oh, il m'a dit, à votre place, moi j'irai. J'ai dit, mais c'est ce que
je suis venu vous dire.
Justement. Voilà. Donc, la chirurgie a joué un rôle très important. À la fois parce que j'ai adoré ça, et en même temps, c'est ce qui m'a ouvert dans des grandes aventures comme Tabarly, l'Everest, etc.
Est-ce que tu penses que sans être médecin et bricoleur, tu aurais eu plus d'appréhension à partir en expédition, ou est-ce que le fait de savoir réparer quelque part quelqu'un qui est malade, ça t'a rassuré à partir loin comme ça? Parce qu'on se dit souvent, quand on part, bon, faut être pas loin d'un hôpital, enfin, s'il se passe quelque chose, bon, là, c'est un peu toi l'hôpital.
Oui. Non, mais la médecine m'a effectivement aidé. Quand je dis à Tabarly, j'aimerais embarquer. Tu es quoi, toi? Je suis médecin, donc j'ai une porte qui s'ouvre, quoi. Hein. Mais j'aurais fait des expéditions malgré tout. J'aurais alterné avec la médecine des expéditions. J'aimais ça. Maintenant, peut-être que je n'aurais pas fait tout ce que j'ai pu faire. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours tenté. J'aimais ça. Et j'avais quel âge? J'avais 38 ans. J'avais déjà presque 12 ans d'expédition. Comme médecin, mais enfin, j'avais fait des... Quand on est avec Tabarly, on est de quart comme tout le monde, quoi. Moi, j'ai mes heures de bar, etc. Très vite, on apprend, et puis on est efficace. L'Everest, c'était un peu pareil. T'es alpiniste, c'est la mer à 38
oui,
ans.
Oui, l'Everest, t'avais 38 ans, justement.
Ouais. Et je me dis, on gagnait pas sa vie, rien, puis c'était peut-être pas... J'allais clôturer un peu ces expéditions, puis je me dis, je vais faire la mienne. Je vais faire la mienne, et c'est comme ça que je décide que mon pôle Nord à moi, mon Cap Horn, mon Everest sera le pôle Nord. Et donc, c'est quelque chose qui...
Un an plus tard, ou un an et demi plus tard, tu décides d'y aller?
Non, c'est juste 86, en rentrant de l'Everest.
Juste en rentrant de l'Everest, tu dis, je vais faire l'expédition au pôle Nord.
Oui, ça m'a pris 2 ans de préparation. Un essai en 85, j'ai échoué, donc et 86, je réussis. Mais tu as évoqué que j'étais super campeur. En fait, c'était ça, quoi. Parce que le pôle Nord, c'est pas compliqué. Au sens technique. Ah. Quand tu es alpiniste, je veux dire, il faut une... Là, j'étais pas du tout
un
marin.
Ah oui, c'est tout plat, d'accord.
Enfin même pas plat, la même plat,
non, enfin, c'est tout plat, je veux dire, c'est pas une montagne, mais c'est plein de petites montagnes, parce que des fois, tu...
Oui, mais quand ce on que voit... je veux dire, l'effort, c'est tirer un traîneau. t'as pas besoin de faire un stage, si tu vois,
ou
une formation.
Il faut passer entre les... Parce que ce dont on se rend pas compte, c'est qu'on a peut-être l'impression que c'est tout plat. Alors, excuse-moi d'avoir dit que c'était tout plat. Mais c'est très, très chaotique. Oui. C'est beaucoup de blocs de glace qui, parfois, font 4 ou 6 mètres de haut.
Oui, c'est des murailles de glace. On appelle ça des crêtes de compression, parce que la banquise travaille. Les blocs de glace se chevauchent comme ça, font des murs, et c'est très chaotique. Et donc, c'est un... Mais techniquement, tirer un traîneau, c'est pas très compliqué. Et quand on a évoqué le mot de super campeur, j'avais connu des tempêtes, j'avais connu des bivouacs difficiles, donc j'étais préparé à ce genre d'aventure, quoi.
Et tu penses que tu avais combien de pourcents de chances de réussite? Tu t'étais donné un pourcentage? Il y a des gens qui t'ont donné des pourcentages.
Oui, crois, oui.
Et ben, Revolute,
j'étais hébergé dans une toute petite auberge qui était tout à fait à l'extrême nord du Canada, à Resolute Bay, c'est un village le plus au nord, là-haut. Et il y avait un gars de Madras, un Indien de Madras, qui tenait une petite auberge. Et il en avait vu passer, ça fait longtemps qu'il était là, il en avait vu passer, puis qui arrêtait des fois, qui ne partait même pas parce que c'était insupportable, il faisait tellement froid, etc. Et il m'a dit, mais moi je sens chez vous, je vous donne 1% de chance. Seul, en plus, personne n'avait tenté ce truc-là, quoi. Et j'ai échoué en 85,
il avait raison. Et t'as tapé sur l'épaule en partant, en disant, allez, vas-y maintenant.
Je suis revenu en 86, il m'a donné 2% de chance, le double. Et bon, j'étais mieux préparé.
À quoi tu penses quand tu avances sur tes skis comme ça pendant... Alors là, ça a pris 63 jours pour atteindre le pôle Nord. Pendant 63 jours, sur tes skis, par des températures qui peuvent atteindre jusqu'à moins 52 degrés.
Oui. Quand à quoi on pense, le parcours, c'est un parcours d'obstacles. Donc on cherche la route la plus facile, quoi, parce qu'on tire un traîneau qui est lourd. Et donc, il y a des murailles à passer, des murailles de glace. Donc, de temps en temps, on décroche le traîneau, on monte sur une crête de compression pour essayer de regarder un peu quelle va être la route la plus facile. Donc, on est occupé c'est une route qui n'existe pas. Donc, on est occupé par le choix de... Voilà. Donc, j'étais pas en vide de penser, quoi. C'est une retraite hors du monde intense parce qu'effectivement, en 86, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a rien, donc je suis seul avec moi-même.
Qu'est-ce qui se passe si le matériel que tu as casse?
Alors, le centre spatial, le CNES, m'avait donné une balise, quelque chose de très récent, une balise de détresse. Et si j'appuyais dessus, ça a envoyé un signal de détresse.
On espère.
Oui, ça devait marcher.
C'est pas gelé par le froid.
Mais surtout ça donnait la localisation du signal de détresse.
C'est tout.
Oui, c'est tout. Donc, il n'y avait pas, on ne sait pas pourquoi j'ai appelé sur la détresse, qu'est-ce qui se passe, etc. C'était très pauvre. Et évident, on passe du temps avec soi. La question que tu me poses est vraie, mais on est... D'abord, il y a résister à la tentation de l'abandon qui est constante, quoi. C'est tellement chaotique, c'est tellement difficile. Puis l'avion qui m'avait amené au nord du Canada m'a dit... Je venais te chercher au plus tard le 15 mai, c'est-à-dire j'avais 2 mois. Et j'avançais pas, je me disais, je ne vais jamais y arriver. Et j'ai tenu en me disant, tiens, puis tu verras, quoi. Comme ça que je suis arrivé au bout.
Mais alors, tu es arrivé au bout cette fois-ci, mais tu as recommencé plus tard. Déjà au Pôle Nord, tu y es allé en 86, en 2002 et en 2010. Donc
tu es un
résident presque permanent du Pôle Nord, mais aussi du Pôle Sud en même temps. Parce que 3 ans après ton expédition en solitaire au Pôle Nord, tu décides de traverser cette fois-ci le pôle sud, l'Antarctique, d'est en ouest. 6300 km, 7 mois d'expédition. Enfin, je rappelle les chiffres pour qu'on se projette un petit peu. Qu'est-ce qui te guide et qui te permet de continuer à avancer quand tu ne sens plus ton corps?
Je ne sens plus mon corps. Tu veux dire une hypothermie, peut-être? Je ne sais pas. Ou alors,
tu le sens toujours ton corps?
Enfin, ah oui, oui.
Non, mais j'ai un passage où je me souviens de ton texte sur la torture du froid.
Ah oui, ça c'est quand je suis au pôle Nord sous la tente, oui.
Oui, et là... Là,
oui, la torture du froid. Quand je sens... il fait moins 52 sous la tente, quoi, c'est le 6 mars. Et je suis seul, effectivement. Je sais que j'entre en hypothermie. J'ai tout sur moi et j'attends qu'une chose, c'est que le jour revienne, que je puisse marcher, que je puisse être actif pour réchauffer mon corps, quoi. Et je pense que j'ai tenu parce que j'étais seul, parce que si on avait été à deux, je suis sûr qu'il y en aurait au moins deux, peut-être moins, en disant, attends, là, on atteint des limites, là, quoi. Mmh. Et c'est vrai que si personne ne l'a fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a peut-être une raison.
Voilà. Et donc, j'ai tenu, je faisais des tables de multiplication pour interroger ma conscience.
Et vérifier que ça marchait encore.
Oui, pour vérifier que ça marche encore, oui.
D'accord. Alors, on connaît un petit peu plus sur ton parcours et tes motivations. C'est l'heure pour nous de passer à tes passions. Tu es un aventurier, mais au-delà du challenge individuel, tu donnes depuis des années un sens à tes exploits. Tu te mets au service de la science et de la connaissance de notre planète. Rebecca.
Entre 1990 et 1996, vous avez mené plusieurs expéditions à vocation pédagogique pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat de la Terre. Vous faites construire le voilier polaire Antarctica, aujourd'hui Tara, et êtes parti dans les années 90 pour la Patagonie, la Géorgie du Sud et la péninsule Antarctique. En 93-94, c'est l'expédition au volcan Erebus. En 95-96, cette fois l'hivernage au Spitzberg. Et au-delà de votre accomplissement personnel, il fallait pour vous trouver du sens, un autre sens. Et celui-là, vous l'avez trouvé grâce à la science, à la découverte et à la compréhension de ces explorations qui ont pris le dessus et sont devenus une nouvelle raison de réaliser tout cela. Après votre mission banquise en 2002 à bord du Polar Observer, l'année suivante, vous dirigez une expédition tout aussi particulière que les autres sur l'île de Clipperton, cette fois pour réaliser un inventaire de la biodiversité et un état de l'environnement de cet atoll français du Pacifique. Et puis un peu plus tard, votre prochain arrêt sera une mission de 3 ans autour de l'Antarctique à bord du Polar Pod, une station océanographique internationale pour l'étude du courant polaire antarctique, acteur majeur du climat de la Terre et une immense réserve de biodiversité marine encore bien méconnue.
C'est ça.
Bien renseigné.
Oui, la science, elle est innée, quoi. Moi, j'ai une formation scientifique, donc j'étais interne des hôpitaux, j'étais assistant d'université, donc la culture scientifique, elle n'est pas que médecine, la culture biologique, les sciences de la Terre, les sciences de la vie, tout ça. Dans ce contexte d'expédition, je suis un logisticien, en fait. Moi, je sais monter une expédition, et donc j'amène avec moi des chercheurs, des scientifiques qui font leur travail de recherche. Et moi, ce que j'aime bien quand il y a un coin qui est difficile d'accès, qu'il y a une attente de la communauté scientifique parce que c'est difficile d'y aller, donc on va faire un outil spécial pour y aller. Mmh. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le partage en temps réel de ces émissions à des fins pédagogiques. J'adore ça. Parce qu'en fait, le terrain, ça te donne une légitimité. C'est le gars qui est là-bas qui nous parle. J'ai aimé ça. Moi, je suis très autodidacte, en fait, de par mon parcours. Ça a été très bien dit, donc je n'avais pas l'autre pour entrer en sixième. J'ai toujours des difficultés pour lire. Je suis très autodidacte. Et d'apprendre à soi-même, ça me passionne. Et j'aime beaucoup partager la connaissance, passer au tamis des phénomènes complexes pour tirer quelques pépites que tout le monde comprend, à partager sans dénaturer le propos, quoi. Et ça, j'aime beaucoup, ça.
Et alors, dans tes expéditions, t'as frôlé la mort, hein, je pense, plusieurs fois.
Oui, j'ai eu de la chance.
Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu sais que tu risques la mort, mais qu'en plus, t'as fait exprès d'y aller?
Non, oui, quand on va en montagne, on n'est pas à l'abri d'une avalanche, quoi. Hein. C'est oui. Ce qui se passe dans les sommets himalayens, alpins aussi. Et j'ai de souvenirs, effectivement, monter un couloir le soir, un couloir de glace, quoi. Et il fallait qu'on monte en altitude un peu, qu'on prenne de l'altitude. Et puis, il y avait une rive sur la droite. Là, et puis, on s'est dit, tiens, on va aller dormir là. On est sorti du couloir de glace. On était à peine sorti du couloir. Pff, une chute de sérac énorme qui amène des pierres à l'échelle himalayenne, quoi. C'est des trucs énormes. Ça sentait le soufre, ça sentait la pierre qui éclatait, en fait. Et ça nous passait à côté, quoi. Donc là, j'ai eu de la chance. À quelques secondes près, on n'aurait rien senti vu le... Voilà. Bon, puis après, il y a eu le pôle Nord. Je suis passé à travers la glace. J'ai failli... j'aurais pu y rester, effectivement. J'avais ce réflexe que si la glace ou mes pas s'effondraient, je ne pouvais pas remonter en m'appuyant de mon corps. Donc, il fallait... C'est un peu comme les sables mouvants. Il fallait s'allonger et ramper pour sortir. Donc, je l'ai fait. Voilà. Donc, j'ai eu de la chance, oui.
Tu es croyant ?
Ah, ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas de religion, mais je suis croyant. au sens où ce qui est fascinant, c'est la vie. Moi, en même temps, c'est le médecin qui parle, la vie. On ne sait pas faire la vie. On ne sait pas faire la vie. Depuis qu'on parle tous les deux, là, ta bile, elle est sécrétée, tu as peut-être mangé des choses un peu grasses, peut-être tu as mangé un truc sucré, il y a le pancréas qui fait le boulot, il y a le cœur qui bat, il y a la température qui se maintient à 37.
Oui, 37.
Mais qui est aux manettes de cette magie qu'est la vie? Voilà. Et ça, pour moi, c'est la religion, c'est un truc, c'est une invention de l'homme, quoi, la religion. Et même, il y en a qui en abusent, quoi, qui donnent les pleins pouvoirs à un dieu que personne ne connaît, sauf à travers les textes. Mais est-ce que le dieu serait vraiment content qu'on fasse la guerre? Je ne sais pas. Donc, je suis croyante dans une. Alors, je dis, on aurait tort de se priver de l'idée de Dieu, mais d'un dieu qui a inventé la vie, quoi, quelque chose qui nous dépasse, qui est si compliqué que ça, parce que sincèrement. C'est mystérieux, le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement du vivant. On ne sait pas faire la vie. Tu dis à une femme qui a fait des enfants, cette phrase-là, on ne sait pas faire la vie. Mais monsieur, moi j'ai deux enfants. Mais madame, vous avez fait un enfant avec un ovocyte qui était vivant.
Oui.
Et un spermatozoïde.
Donner la vie, c'est pas la même chose que créer la vie. C'est,
voilà. Donc, cette magie-là de la vie, alors, ça me fascine, quoi. Donc, je suis croyant, je suis émerveillé par une intelligence supérieure, quelque chose qui a fait. Bon, il y a eu une évolution, ça s'est complexifié, mais c'est magique.
Émerveillé par une intelligence supérieure, ça me va très bien. Merci Jean-Louis pour ce partage. Sur ce, nous passons à la séquence suivante. Et c'est la séquence Actu. On voudrait parler de ton dernier projet, Rebecca.
Le Polarpod. Infatigable défenseur de la planète que vous êtes, le Polarpod est sans doute une de vos expéditions les plus ambitieuses. Un projet à la Jules Verne, il s'agit d'un vaisseau vertical, économique, écologique, qui fonctionne via des énergies renouvelables et très stable dans la grosse mer, qui dérivera dans l'Antarctique grâce au courant circumpolaire et a pour objectif 1. De comprendre le fonctionnement de ce puits de carbone. L'océan Austral absorbe 50% du gaz carbonique qui est absorbé par les océans. Et 2. Faire un inventaire de la faune par acoustique, voire une découverte d'espèces. Et il paraît que vous espérez grandement voir un calamar colossal. C'est donc la première campagne océanographique zéro émission.
Bravo, vous avez bien résumé ce que c'est que le Polarpod.
Alors c'est passionnant, donc évidemment c'est un grand projet qui a besoin d'être financé.
C'est une cathédrale.
Tu as déjà quelques financeurs, mais aussi pour le financer, tu proposes des croisières, alors, je ne sais pas si on appelle ça vraiment des croisières, mais sur Persévérance,
Oui, alors c'est un projet qui est énorme, hein, ça fait 10 ans que je travaille dessus. Il y a effectivement deux investissements, l'État finance la construction, c'est donc un financier SGPI, secrétaire général pour l'investissement. Donc la construction est financée par l'État, Ifremer et maître d'ouvrage. Moi, je suis l'exploitant. Mais exploiter le Polarpod et puis faire le tour de deux fois de l'Antarctique qui va prendre 3 ans, il y a toute une logistique, effectivement. Donc personne ne restera 3 ans à bord du Polarpod. Et là, on fait des allers-retours entre la côte la plus proche avec Persévérance.
Sur le bateau Persévérance.
Voilà. Et donc Persévérance est un navire dont j'ai la responsabilité financière. Donc, il a fallu faire des emprunts, etc. Et puis, donc, on a des partenaires, on a des mécènes, on a des sponsors, effectivement. Et les voyages que l'on fait à l'heure actuelle, qui sont des voyages de mise au point de Persévérance et de mise en place des équipements scientifiques, on accueille des gens payants, effectivement, pour faire des voyages en Antarctique, au Spitzberg. On revient au Spitzberg bientôt. Effectivement, c'est sur notre site, si les gens veulent...
Du pôle sud.
Et chaque passager est un contributeur de Polarpod. C'est comme ça qu'il vaut le voir. Et on partage du temps dans les régions polaires avec moi.
Eh bien voilà, les auditeurs intéressés sauront contacter la rédaction pour pouvoir... ou contacter directement Polarpod.
Sur le site internet.
On peut directement s'inscrire pour une croisière absolument hors norme. C'est pas vraiment une croisière, mais c'est plutôt une expédition, une aventure. Alors, c'est pour nous...
C'est un voyage découverte.
Un voyage découverte, exactement. Nous passons maintenant à la séquence rapide de l'émission, le Quizella. Alors, le Quizella, c'est quoi? C'est un quiz rapide. Je te pose des questions et tu y réponds le plus rapidement possible. Tu es prêt?
Je vais voir, ça dépend de la question.
On va voir. Eh bien, c'est parti quand même. L'endroit de la Terre qui t'a le plus scotché?
On va dire le pôle Nord, parce qu'il n'y a rien, et ça a orienté ma vie.
L'expédition qui t'a fait le plus peur?
Une expédition himalayenne, parce qu'effectivement, les avalanches, c'est ce que l'on redoute le plus, et j'ai eu de la chance.
la différence entre persévérance et obstination?
À la persévérance, il y a la poursuite d'un chemin, d'une idée, d'une envie. Il faut la nourrir, la persévérance. L'obstination, j'ai le sentiment qu'on est bloqué, c'est l'idée que j'en ai. La persévérance, ça se nourrit en avançant toutes ces antennes dehors pour le construire.
Les bienfaits de la solitude?
La solitude est une amie avec laquelle je passe du temps. Et c'est constructif. Il y a de l'intensité dans la solitude. Ce n'est pas une solitude d'abandon, une solitude de construction.
La petite phrase qui te donne du courage quand tu as froid?
Alors, quand j'ai froid, il faut se bouger. La seule façon, soit on se couvre, on a l'abri, mais même quand il fait
froid... Même quand on n'a pas froid, il faut se bouger. Alors, plutôt frison roche ou tabarly?
Alors, frison roche, c'est l'esprit, la découverte de la montagne. Tabarly, c'est l'engagement sur la mer. Ce sont ces deux univers que j'ai fréquentés.
Ton conseil aux jeunes?
Suivez la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile.
Ta potion magique à toi?
Ma potion magique, alors c'est un truc que l'on avale, c'est un truc que l'on boit, c'est quelque chose qui me donne du...
Ça peut être une pensée.
Ça peut être une musique. Jekyll, le matin, de temps en temps, ça me remue bien.
Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains regardaient les pionniers aujourd'hui, quelle serait la plus belle phrase que tu aurais envie de leur adresser?
Je leur dirais à chacun, inventez votre vie en tenant compte de l'impact que ça a sur les autres.
Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette séquence. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu du Quizzella. On va se quitter sur cette chanson que tu as sélectionnée, Forever Young,
oui.
De Bob Dylan.
Oui.
Pourquoi tu as choisi cette chanson?
Je me la passe parce que j'ai 77 ans et de temps en temps...
Es Forever Young.
Et je suis Forever Young. Quand je regarde, si tu veux, c'est quand je me projette sur quelqu'un qui avait 77 ans que j'en avais 20. Je suis celui-là. Je dis, merde, mais pourtant quand même, je ne réalise pas ce truc-là.
Et donc, mais de toute façon, la limite du jeune est repoussée chaque année.
Oui, mais bon, ça fait 57 ans depuis 20 ans.
Eh bien, merci Jean-Louis pour ce moment de bonheur, de partage et d'émotion. Merci de nous avoir partagé cette aventure.
Mais avec plaisir.